Bonjour et bienvenue sur la chaîne de podcast Métamorphose Professionnelle, le podcast qui s'intéresse aux transitions professionnelles. Vous y découvrirez des témoignages de personnes venues de tout horizon qui partagent avec vous leur parcours, leurs hauts et leurs bas, la réalité de leur métier et du monde du travail. Nous parlerons également de multipotentialité, de slashing, de rupture de contrat, de formation, d'argent, d'épuisement professionnel, de conciliation vie pro, vie perso et surtout de sens au travail et bien d'autres sujets encore. Je vous invite également à mettre 5 étoiles si vous avez aimé l'épisode et à vous abonner à la chaîne pour ne rien louper des prochains épisodes. Je m'appelle Tiffaine Choblet, je suis psychologue du travail et ma mission est d'accompagner les personnes en quête de sens qui souhaitent un changement dans leur vie professionnelle et valoriser leur image en les aidant à déployer leurs ailes et à prendre leur envol. Mon prochain invité mesure près de 2 mètres. C'est un homme de défi, persévérant, empathique et positif. Il possède sans aucun doute des qualités et un état d'esprit indispensable à l'entrepreneuriat qu'il a pu développer durant sa carrière de sportif et qui ont pu lui servir dans son évolution. Son nom vous dit peut-être quelque chose. Je vous laisse écouter Georges-Henri qui nous raconte son parcours de basketteur professionnel à gérant d'un magasin de vêtements visant à devenir une structure d'insertion.
Bonjour Georges-Henri.
Bonjour.
Je suis ravie en tout cas de t'accueillir dans ce podcast. Et puis tu vas nous parler un petit peu de ton parcours. Je vais commencer par te demander, est-ce que tu peux te présenter
dans oui, un bien premier sûr. Temps Alors, je m'appelle Georges-Henri Bassegna et je suis en reconversion, hein, d'où l'objet de cette interview. J'ai fait une reconversion, j'en ai fait même deux. Les adjectifs pour me qualifier le mieux. Je dirais que je suis persévérant, et je dirais que je fais preuve d'empathie, et je suis toujours positif.
Ah, super, donc tu vas nous amener ta positive attitude dans ce podcast.
J'espère.
Ok, donc tu disais que tu avais fait deux reconversions, est-ce que tu peux nous expliquer lesquelles c'était ?
J'ai fait deux reconversions. La première reconversion, c'était... C'était une reconversion dans le monde du sport professionnel pour changer dans le monde de l'entreprise, je dirais, plus traditionnelle, c'est-à-dire les achats. J'étais ancien sportif de haut niveau pendant 20 ans.
Ouais.
Et je suis arrivé dans une ville qui s'appelle Saint-Chamond, à côté de Saint-Étienne, pour pouvoir continuer à jouer au basket. Tout en pensant à me reconvertir, parce qu'on sait bien dès le départ que la vie de sportif professionnel a une fin. Et la fin est souvent très difficile à déterminer. Et donc, c'est pour ça que j'ai préféré anticiper et prendre les devants, arriver à 31 ans, avoir un projet de reconversion avec ce club de basket, ce qui m'a amené à reprendre des études.
D'accord.
Parce que j'avais arrêté mes études à l'IUT. À l'époque, je faisais une IUT technique de commercialisation. Et je ne suis pas allé au bout de l'IUT. J'ai fait ma première année. Ma deuxième année, je l'ai fait à moitié. Je n'ai pas fini les examens. Donc, il a fallu que je repasse sous les bancs de l'école.
Et comment tu as choisi cette orientation, beaucoup, ce choix d'études ?
Ce choix d'études, je l'ai fait... en fonction de l'appétence que j'avais pour le commerce. Donc, je suis quand même resté dans la branche IUT et je me suis donc rapproché du syndicat des joueurs où ils m'ont aidé via le partenariat qu'ils avaient de mémoire avec ADECO. Donc, j'ai appris à mettre en forme toutes les compétences que j'avais développé au niveau du sportif professionnel, la communication, des interviews, de la langue, puisque je parlais donc l'anglais et puis un peu aussi l'espagnol. Donc j'ai pu mettre tout ça en forme sur un CV que j'ai pu après derrière montrer à mon futur employeur qui était un sponsor du club et que j'ai démarché pour lui demander de savoir s'il y avait des recherches ou des opportunités d'emploi dans son entreprise. Et c'était une entreprise de textile, c'était un groupe textile, multinational de textile, et donc du coup, il y avait des besoins au niveau des achats Donc moi, j'ai adapté mon BTS qui était, je veux refaire même un BTS, ces techniques de commercialisation, mais j'ai dû passer par un BTS plutôt de gestion
D'accord.
PME-PMI. Vu que j'étais sur un boulot sédentaire et que je rejoignais l'équipe achat en tant que gestionnaire achat. Donc voilà un peu.
D'accord. Et donc là, le basket, donc tu disais que voilà, la fin était difficile. Comment tu l'as vécu? Est-ce que tu as trouvé assez rapidement finalement quand même vers quoi tu voulais te tourner? Est-ce que ça a pris du temps? Comment ça s'est
Ben, ça a
fait?
été, je dirais que ça a quand même pris un peu de temps parce que ça a pris un peu de temps, mais ça a été, passez-moi l'expression, smooth, ça a été quand même plus ou moins doux parce que je n'ai pas attendu de baisser physiquement et d'être physiquement et mentalement, être, ne plus avoir cette envie que j'avais avant, cette motivation, et physiquement ne pas avoir le pot de pépin physique pour me dire, là, je ne peux plus, il faut que j'arrête. C'est-à-dire que j'ai, s'il y a eu un moment effectivement, à mon arrivée, où je me suis rendu compte qu'il fallait que je ne dépende plus que du basket professionnel, parce qu'à des moments, on a des contrats qui sont courts, des CDD sur 2 ans, voire 3 ans. Et derrière, on se retrouve à des moments au chômage, donc entre l'été, pour pouvoir le temps de trouver. Le mois de mai, le mois de juillet, on est quand même assez stressé parce que on dépend d'un agent qui travaille pour vous. Vous n'êtes plus, je dirais, maître de votre destin. Vous l'avez fait pendant la saison, mais là, vous n'êtes plus maître de votre destin. Donc, il faut du lâcher prise. Et ce lâcher prise, ça demande aussi je dirais de la patience, et ce sont des moments qui sont stressants. Donc ça, je me suis dit qu'il fallait à un moment arrêter de passer à une autre étape. Et c'est vrai que ça a été un élément déclencheur pendant la saison où on était en difficulté. Et là, je me suis dit qu'il fallait pas que ça m'arrive de nouveau et qu'il fallait que je me mette, je dirais, un peu à l'abri. Et ma famille aussi, puisque à cette époque, j'avais une fille. Donc voilà, c'est ça qui a fait que je me suis dit, bon allez, la saison prochaine, nous allons faire différemment. Et donc nous avons enclenché la reconversion, donc les études et l'alternance, parce que c'était une
D'accord.
alternance, j'ai fait sous forme d'alternance, c'était pour moi, c'était le plus évident et
OK.
le plus parlant, parce que reprendre des études directement que sur les bancs de l'école avec à plus de 30 ans, j'avais déjà plus de 30, 32 ans. Donc, c'était quand même, voilà, j'ai préféré l'alternance. Donc, du coup, j'ai eu l'opportunité de le faire avec l'école et avec l'entreprise et à continuer au basket. Alors, oui, ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie, beaucoup de sacrifices. Il faut aussi que la famille soit pleinement consciente et adhérente au projet. Donc, ma femme, par rapport à ça, elle a fait l'effort de dire ok d'accord bon ben très bien c'est tout l'avenir il faut que et ça passe aussi par le sien parce que c'est la famille donc voilà donc entre le basket les entraînements les déplacements dans toute la France parce que c'est encore au niveau national donc dans toute la France et les études il fallait cumuler ces trois activités pendant 2 ans.
Et alors, comment tu as vécu cette période où justement tu retournais en études et justement avec tes multiples activités en parallèle?
Ben, je dirais que physiquement, c'était très compliqué au début. Après, on a eu le rythme. Et derrière, je dirais que je l'ai vécu de façon, je dirais, sereine, motivée, parce que je savais ce qu'il y avait derrière à la clé. Et puis, on n'aborde pas les études à cet âge avancé, je dirais. On n'aborde pas les études de la même façon qu'on pourrait aborder les études quand on est jeune. On a cette maturité et cet objectif de vouloir performer pour pouvoir justement s'ouvrir une voie vers une reconversion qui soit complète et les études s'y prêtent puisqu'elles entérinent un petit peu dans la société votre crédibilité. C'était un challenge pour moi. C'était un challenge où je repartais de zéro en me disant, ben voilà, maintenant. Tu as fait du sport, qu'est-ce que tu peux faire après? Sur quoi vas-tu t'orienter? C'était un challenge que j'ai voulu relever et qu'il fallait que je relève parce que parce que je pense que je suis un homme de défi. Et voilà, donc ça s'est bien passé. Mon diplôme en poche, j'ai continué donc à travailler au sein du groupe.
Ok, super. Et donc là, du basket, ça faisait combien de temps que tu en faisais avant que tu entames cette reconversion?
Ben, de l'âge de 19 ans, mon premier contrat professionnel, jusqu'à 31 ans. Donc, ça fait 20, ouais, ça faisait 10, 29, 10, 12 ans. Ou plus, je ne sais même plus. J'arrive même plus à me rappeler. Ouais, à 20 ans et 30 ans. Donc, j'ai fait 11 ans, 12 ans, même plus, ouais, voilà, avant de me reconvertir.
D'accord. Et est-ce que tu penses que ton mental que tu as développé au travers du sport, ça t'a servi justement dans cette épreuve de reconversion?
Je dirais énormément. Énormément. Parce que pour moi, ça a été une école de vie. Ça n'a pas, je dirais que c'est différent d'une entreprise normale. Il faut tout le temps prouver. Donc, on est à 100%. On doit être, si on veut performer, on doit être à 100% tout le temps. Et quand on est un peu moins, ben derrière, il faut vite se rattraper. Et l'avantage qu'on a, c'est qu'on est deux fois par jour sur le terrain pour prouver. Au boulot, c'est 8 heures, c'est constant, hein, 8 heures de boulot. Et voilà. Et derrière, alors que là, dans le sport, ce sont des petits moments. Donc, il faut savoir être performant, déjà à l'entraînement tout le temps, et dans les matchs, là où tout le monde voit, où on vous voit, vos performances, où on vous évalue, c'est toutes les semaines. Alors qu'au boulot, ce n'est pas toutes les semaines. C'est s'il y a un des temps où on est évalué, alors que là, c'est tout le temps. Donc, oui, ça m'a beaucoup, beaucoup appris et ça a forgé mon caractère, ce qui fait que, voilà. Après, d'ailleurs, je pense qu'il ne faut pas confondre forger le caractère et tomber dans l'ego. Il y a l'ego du sportif de haut niveau, mais je pense qu'il y a détermination aussi. Il faut pas, si on mélange les deux, à un moment, on risque de se perdre.
Donc là, dans le sport professionnel, tu étais amené à faire des déplacements régulièrement, j'imagine.
Oui.
Et dans le cadre de cette nouvelle activité, est-ce que tu te déplaçais? Comment ça se passait au niveau du rythme?
Alors, dans cette nouvelle activité, je ne me déplaçais pas beaucoup parce que j'étais gestionnaire achat. C'est une coordination entre... Je travaille en collaboration avec l'acheteur. Donc, c'était en l'occurrence du textile. Donc, je coordonne tout le bureau d'études, les personnes qui font les modèles et les stylistes qui créent les vêtements pour pouvoir permettre à l'acheteuse d'avoir tout ce qu'il faut en termes de, je dirais, en termes financiers, en termes logistiques et en termes produits pour qu'elle puisse correctement faire son travail. Donc, j'étais sédentaire, je restais à mon bureau. Et effectivement, c'est c'est une question qui est très pertinente parce que c'est la question qu'on se pose tous, que beaucoup m'ont posé en me disant, mais tu as bougé tout le temps, tu as voyagé, tu es parti en Europe, comment tu fais pour rester là maintenant? Ben moi, ça n'a pas été compliqué, ça a été très facile parce que ça fait partie d'un nouveau challenge et je pense que ça fait partie de moi. Nouveau challenge. Il faut que tu sois compétent, il faut que tu réussisses, faut que tu te donnes les moyens. Donc voilà, j'étais plus concentré dessus. Et puis c'était aussi une forme de repos, c'est du changement. Et le changement, ça peut faire peur au début, mais en même temps, je dirais qu'il est salvateur parce qu'il permet de franchir différents caps et de grandir.
Ouais, totalement. Est-ce que t'as ressenti des difficultés dans tes reconversions, dans tes parcours?
Oui, j'ai fait face à l'adversité. J'ai fait face au jugement, comme tous les êtres humains. J'ai fait face à des refus. C'est une remise en question de savoir qu'est-ce que je ne fais pas de... qu'est-ce que je ne fais pas bien? Est-ce que c'est moi qui agis mal, qui emploie les mauvais outils? Est-ce que ça vient de l'entreprise? Est-ce que ça vient des personnes qui sont en face de moi? C'est une remise en question qui est régulière. Savoir ce qu'on fait de bien. Et ça, je pense que j'essaie de le faire de façon quotidienne. Parce que je trouve que c'est important de se remettre en question, de savoir ce qu'on a fait, bien fait, ce qu'on n'a pas bien fait, ce qu'on pourrait améliorer. Donc oui, j'ai rencontré des difficultés par rapport à cette reconversion. Je dirais qu'elle était un peu plus facile que la deuxième. La deuxième était un peu plus compliquée. Mais en même temps, je dis ça là, mais avec du recul, je me rends compte que l'autre, la première, était aussi difficile parce que je suis resté quand même 8 années, 10 années en tant que gestionnaire avant de pouvoir évoluer. Alors, certainement, j'ai aussi en parallèle exercé le métier d'entraîneur, de coach sportif pour une équipe, plusieurs équipes de basket pendant 7 années. Ça m'a justement, après avoir fait le tour de mon poste de gestionnaire, ça m'a permis de patienter et de faire, de repartir sur un autre challenge. Et c'est vrai qu'après, j'ai pu évoluer au poste d'acheteur, mais ça n'a pas été, effectivement, ça a été quand même compliqué, ça a pris du temps. Ça a pris du temps, donc. Effectivement, on ne bouge pas forcément les mentalités comme ça. Mais j'y suis arrivé. Donc, voilà.
Et donc, tu disais que la deuxième était plus difficile. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi elle consistait, cette deuxième transition?
Alors, ma deuxième reconversion, nous avons été licenciés économiques. Je faisais partie d'un groupe qui a été racheté, qui a été en liquidation judiciaire et qui occupait le paysage des enfants, parce que c'était la mode enfantine. D'accord. Et qui a été racheté par une entreprise chinoise. Et finalement, donc nous avons été licenciés tous. Et l'entreprise a été rachetée, les différentes marques ont été rachetées par un groupe de textiles dans le nord de la France. Donc nous avons été à Saint-Chamond, nous avons été tous licenciés. Et derrière, je m'occupais déjà de mes collègues salariés, puisque je faisais partie du comité social et économique. Et j'étais au syndicat, donc nous avons dû nous battre pour le PSE pendant quelques mois. Et suite à ça, il a fallu que je prenne une orientation. Après une digestion de ce licenciement économique et puis de ce travail accompli à essayer de défendre mes collègues, il a fallu digérer tout ça et puis repartir dans un nouveau challenge. Mais un nouveau challenge qui est sens. Qui est du sens. Donc, après réflexion, je suis parti aider ma grande sœur qui est directrice d'une structure par l'activité économique au niveau du textile pendant une semaine de bénévolat. Et puis, j'ai pu passer par tous les métiers qu'ils exerçaient, chauffeur-livreur, manutentionnaire, le tri. Le seul qui m'a manqué, c'était la vente en magasin, parce qu'ils collectent le vêtement et le trient et vendent en magasin. Et donc, du coup, je me suis dit, mais ce serait une super idée de faire ça à Saint-Étienne, dans la ville où je réside. Et donc, du coup, c'est parti de là. Et je me suis dit, bon, allez, je vais me lancer. Donc, du business plan à business plan social, puisque je voulais ouvrir une entreprise d'insertion, j'ai passé un an à mûrir et travailler ce projet. En me rapprochant des collectivités, je veux dire de la collectivité de la ville, pour m'aider, pour m'accompagner sur le projet. Et puis à la fin, je me suis dit, ça y est, c'est prêt. Je vais aller voir qui de doit pour pouvoir voir comment on ouvre, chercher un local. Et je me suis heurté effectivement à une... Je dirais que je me suis heurté à... pour l'achat de ma marchandise à une institution qui me dit oui, mais je peux pas, vous pouvez pas acheter des vêtements chez moi parce que vous allez me faire concurrence. Et effectivement, la difficulté a été là. La difficulté pour moi a été d'accepter le fait que je veuille aller dans un milieu où il y a des besoins, puisque ce sont les mots des personnes de la directe que j'ai rencontrées. Une politique gouvernementale où on veut justement aider et insérer. Et je me retrouve face à cette institution d'insertion qui m'empêche d'aider, de les aider eux et d'aider les personnes qui sont en difficulté. Donc là, mon combat a été, je dirais que ça, là, ça a été déjà un choc. Et après, derrière, je me suis dit, bon, c'est pas grave. Et c'est là où ma soeur a pris le relais, puisque comme étant directrice et ayant des vêtements, puisqu'elle travaille, elle travaille sous la métropole de Strasbourg, ayant des vêtements, elle m'a dit, mais moi, tu peux acheter chez nous. Si tu ne peux pas le faire à Saint-Étienne, tu peux. J'ai dit, effectivement, bah, dans ce cas-là, ben, je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix parce que j'ai eu porte fermée auprès de deux institutions qui récoltent les vêtements. Donc, je suis parti. Donc, j'ai fait Strasbourg. Je me suis dit, OK, très bien, je vais acheter à Strasbourg. Donc, la difficulté a été là. Je pense que c'est la grosse difficulté. Et effectivement, je ne m'attendais pas à ça. Mais après, derrière, je suis remonté sur mon cheval, n'est-ce pas? Et puis, je suis parti à la conquête des vêtements, de la construction du magasin, de tout ce qu'il y avait ensuite derrière. Et puis là, maintenant, aujourd'hui, j'ai ouvert cette... Je dirais que j'ai ouvert ce magasin depuis le mois de juin, depuis le 22 juin, et avec cet esprit et ce style éco-responsable, puisque c'est le slogan de Free M, qui est le magasin textile et qui est le diminutif de Friperie Moderne, où nous avons apporté, je dirais, ma soeur et moi, une touche de modernité, de tendance, de concept boutique, sans ajouter une plus-value financière sur les prix que nous faisons dans le magasin.
Et qu'est-ce qui t'a motivé à ouvrir une structure d'insertion? Parce que c'est pas anodin, enfin voilà, d'ouvrir ce type de structure plutôt qu'un autre type de magasin, par exemple.
Ben, ce qui m'a motivé, j'y suis pas encore, hein, puisque j'y suis en forme de SARL, et puis je pense que je vais embaucher les personnes dans l'insertion, et puis ça ne m'empêchera pas de le faire, parce que maintenant que je suis une entreprise. Mais ce qui m'a motivé, je pense que j'ai toujours eu cette fibre sociale, et que c'était en moi. Et lors du bilan de compétences que j'ai fait quelques années en arrière pour pouvoir avoir toutes les billes de mon côté et pour être sûr du choix que je faisais, pour pouvoir évoluer donc à ce poste précédent d'acheteur, il s'est révélé à moi que j'avais cette fibre de pouvoir et de vouloir aider les autres, et il était ressorti directeur de structure sociale. Voilà, donc ça faisait 6-7 ans que j'avais eu ce bilan de compétences, 6 ans. Donc, je l'avais bien lu, je l'avais exposé à ma direction, à mon supérieur. Bon, ils n'ont pas su lire à travers les lignes et voir ce qui était en moi. Peut-être parce qu'ils ne s'y intéressaient pas, tout simplement. Après, chacun est libre de ses choix. Mais maintenant, ce qui fait que ça s'est révélé à moi, donc je me suis dit, ben, quand je l'ai relu, je me suis dit, ben oui, mais c'est ça qui doit, c'est ça que je dois faire. Donc du coup, je suis parti là-dedans. C'est ça qui m'a motivé pour pouvoir aller dans cette structure. Et puis, j'ai été coaché pendant cette année. Cette année, j'ai coaché des seniors femmes, des seniors hommes, des plus jeunes. Et c'est vrai que j'aime transmettre, parce que je trouve que c'est important de transmettre ce qu'on en a appris. J'ai eu le privilège de faire un métier qui m'a passionné pendant 20 ans, d'apprendre beaucoup de choses. Et je suis resté sur le positif, et je me dis que c'était important aussi de pouvoir transmettre. J'ai cette expérience, donc ceux qui sont intéressés, ben, je suis là, je donne, je transmets. Donc voilà, c'est moi, ça me paraissait une évidence.
Ok, c'est beau parce que du coup on sent hein, que tu as ces valeurs-là et justement que tu peux les transmettre à travers des personnes que tu accompagneras dans le domaine de l'insertion et même peut-être les clients aussi, enfin voilà, les gens qui viendront acheter. Tu disais que tu avais fait un bilan de compétences donc 6-7 ans auparavant, donc c'était avant le licenciement économique, si je comprends bien.
Oui, tout à fait. Ouais.
Donc tu envisageais déjà de faire autre chose avant ce licenciement ?
Ben, oui, j'envisageais de faire autre chose, tout à fait, parce que j'envisageais déjà premièrement, parce que quand on arrive sur un poste, on fait 2, 3, 4 ans et qu'on fait le tour du poste, Ce qui se passe dans le milieu professionnel, c'est qu'on a des entretiens et qu'on est, entre guillemets, censé aider le salarié à évoluer et à changer. C'est comme ça que c'est censé fonctionner, mais ça n'a pas fonctionné comme ça. Je suis resté toujours au même endroit. Alors, est-ce le cliché du sportif qui doit rester à sa place, qui comprend pas? Je libre aux gens de penser ce qu'ils veulent. Mais en tout cas, moi, je suis resté sur un poste pendant 8 ans sans possibilité d'évolution. Donc, si moi, je ne me crée pas mon évolution, je dis personne ne va le faire pour moi. Donc, je prends ma vie en main. Donc, à un moment, j'ai voulu passer un diplôme d'entraîneur, aller entraîner plus haut. Et donc, j'avais négocié une disposition. Après, derrière, ça n'a pas pu le faire parce qu'il y avait des sous termes administratifs et techniques. Donc, je me suis dit, bon, ben, c'est pas grave, si je ne peux pas faire ça, je vais devoir faire autre chose. Il faut que je fasse un bilan de compétences, que je vois ce sur quoi je pourrais partir. Et donc, je l'ai fait en même temps que j'étais toujours à ce poste, en continuant à donner le meilleur de moi, parce que c'est comme ça que j'ai été, je veux dire, éduqué sportivement. Et j'ai compris que c'est ce qui paye un jour ou l'autre. On ne peut pas avoir tout d'un coup et tout de suite. Contrairement à ce que des fois on veut nous faire croire ou on nous montre, il faut travailler pour avoir ce qu'on mérite ou ce qu'on a. Pour que ce soit, je dirais, de façon pérenne surtout. Je pense que c'est la pérennité qui est importante et pas je dis l'éphémère.
C'est pas un sprint, un
Non,
marathon,
c'est pas. Voilà,
un
exactement.
endurance.
Oui, c'est ça.
Et donc, est-ce que tu t'es fait accompagner au moment de ton licenciement économique dans ton projet de création d'entreprise?
Alors, dans mon projet de création d'entreprise, oui, je me suis fait accompagner par la métropole céphanoise. J'ai fait mes démarches par rapport à ça. Je vous avouerai que ce sont les seuls. Après, derrière, j'ai aussi démarché je veux dire, les entreprises d'insertion, puisque je tendais vers cela au début. Et que ça, c'était dans une deuxième étape. Mais j'avais aussi besoin de. Dans tout projet, moi, je pense que dans tout projet, il faut. Il y a cette partie où on mûrit, on réfléchit, on mûrit le projet, où on bosse. Et cette partie où j'ai bossé seul. Seul sur le projet, sur la construction du projet, sur. Voilà, j'ai échangé avec ma soeur qui, elle, donc, par son métier, nous avons des échanges très fructueux et très, très, je dirais, très rapprochés. Donc, nous avons eu beaucoup d'échanges. Et puis après, d'ailleurs, j'ai fait la démarche d'aller voir, ça s'appelle la MIF Loire Sud, à Saint-Étienne, pour pouvoir m'aider. Donc, ils m'ont dit qu'ils allaient m'accompagner. Donc, on a eu quelques échanges, effectivement. Jusqu'à l'échange où il fallait que je contacte, je dirais, celui qui la personne, l'institution qui récolte les vêtements. Et là, vu qu'il y a eu fait de non recevoir, la collaboration a cessé, forcément. Mais oui, l'accompagnement a été là.
Est-ce que tu as été soutenue par ton entourage dans ces deux transitions que tu as vécues, ou est-ce que voilà, il y avait plutôt des réticences, des personnes qui te déconseillaient d'aller dans cette voie?
Alors, des personnes qui m'ont déconseillé d'aller dans cette voie, je ne dirais pas. Alors, je ne sais pas si c'est ma taille ou qui a imposé le silence, si je peux m'exprimer ainsi, parce que je suis de 96. Et
Ah oui.
je me dis, j'ai eu des personnes qui m'ont fait forcément des réflexions. Dans mon entourage, alors mes proches, je dirais que ma femme et mes enfants. Ouais, je pense qu'elle a été dans cette réticence pour être tout à fait transparent, parce que c'est nouveau et puis parce que c'est l'inconnu. Donc ça, je l'entends et je l'ai bien compris. Et il n'y a pas eu de souci par rapport à ça. Mais effectivement, cette entreprise, je lui ai dit, bah, ce sera mon entreprise. Comme ça, il n'y aura pas d'interaction et ce sera moi. Comme ça, c'est moi qui en prendrai la responsabilité et pas elle. Elle aura son activité à côté et ce sera aussi bien comme ça. Comme ça, il n'y aura pas d'interaction négative ou quoi que ce soit. Mais oui, la réticence, il y en a eu. Et puis, il y a aussi ceux qui m'ont encouragé. Ben, forcément, je dirais que ma sœur, elle de ce côté-là, a été présente. Mm-hmm. Puisqu'elle travaille là-dedans, elle sait ce que c'est. Et oui, elle a été à mes côtés. Et jusqu'à maintenant, elle est, puisque nous sommes associés dans l'entreprise. Donc, voilà. Et puis, j'ai eu des amis... j'ai eu des amis proches qui ont été là aussi. J'ai eu des amis proches qui ont été là, qui m'ont soutenu, même si, effectivement, quand on est dans le fait d'entreprendre, on se retrouve, et l'entrepreneur, il est souvent seul face à ses décisions. Donc, au début aussi, parce qu'il y a de l'incompréhension, parce qu'on ne sait pas ce que demain va nous réserver. Mais pour autant, il faut aussi savoir sauter le pas en prenant le temps de prendre les bonnes décisions et de mûrir son projet et de travailler.
Tout à fait. Est-ce que tu aurais un conseil ou plusieurs conseils à transmettre aux personnes qui souhaiteraient justement démarrer une transition professionnelle?
De suivre son instinct, je pense que c'est pas le bon terme. Et je pense qu'à des moments dans notre vie, la vie est faite de choix. Et on arrive à des carrefours. Et des fois, il faut réfléchir posément, mais il faut aussi aller où votre cœur vous guide. Alors, je mettrai entre guillemets « votre cœur vous guide » et je rajouterai, entre parenthèses, si vous me suivez jusque-là, si tu me suis jusque-là, je dirais « il faut aussi mettre tous les ingrédients de son côté ». Donc, le cœur, c'est une chose, mais il faut aussi travailler. Et mettre du concret sur ce qu'on perçoit. Mettre du concret. Si on met du concret et du travail, je pense que derrière, ça paiera. Et de toute façon, s'il y a un échec, c'est pareil. Qu'est-ce que l'échec ? Ben, c'est une façon d'apprendre. Voilà, c'est une façon d'apprendre. Donc, il faut simplement redresser le curseur, voir ce qui est, se remettre en question, voir ce qui n'a pas été, puis repartir.
Je te rejoins complètement sur cette notion d'échec. Et moi, c'est quelque chose que je dis souvent aux personnes que j'accompagne aussi. Parce qu'en plus, en France, on a une notion d'échec qui est un peu péjorative. On voit ça un petit peu de manière catastrophique.
Oui, c'est ça.
Alors que non, ce n'est pas le cas. Et voilà, il faut en passer par là pour pouvoir réussir aussi. Mais pour ça, en effet, et tu as bien raison de le pointer, il faut aussi pouvoir mettre du concret et pas le cœur. Okay, c'est la source de motivation. Mais la motivation elle seule s'accompagne d'action.
Voilà, exactement.
Ok. Je te remercie. Moi, je rajouterais par rapport à ta présentation de départ. Tu me diras si tu es d'accord avec moi. Tu te présentais de manière persévérante, avec de l'empathie et toujours positif. Moi, je rajouterais, en tout cas, c'est ce que tu renvoies, je rajouterais authentique et réfléchi.
Bon, très bien. Oui, effectivement. je dirais que c'est deux termes, oui, authentique et réfléchi. Je ne pourrais pas mieux résumer les choses que ce que tu viens de dire. Oui, authentique et réfléchi, c'est juste.
Est-ce que tu as quelque chose à rajouter avant de terminer?
Je dirais tout simplement que je te remercie de m'avoir donné l'opportunité d'avoir pu échanger sur mes reconversions. J'espère que ça pourra donner des idées aux personnes qui souhaitent changer de voie.
Je te remercie beaucoup pour ton partage. C'est très gentil à toi.
Mais je t'en prie.
Merci. En tout cas, je te souhaite une bonne continuation dans ton activité. Et puis, allez voir Fripp M.
Oui.
C'est ça. Donc, à Saint-Étienne.
Oui, c'est ça. Fripp M à Saint-Étienne. On est sur Google. Vous pourrez nous voir sur les réseaux sociaux aussi, sur Instagram, sur la page Facebook. On essaie de donner du sens à l'éco-responsabilité. Éco-responsabilité économique et responsable. Et écologique et responsable. Voilà.
C'est important. Encore plus de vouloir, ça fait sens.
Oui.
Ok, merci.
je t'en prie. Merci.
Je vous remercie grandement pour votre écoute de cette nouvelle métamorphose professionnelle et je vous invite tout de suite à vous abonner pour suivre les prochains épisodes, ainsi qu'à commenter, réagir et ajouter 5 étoiles si vous avez apprécié le podcast. Si vous aussi vous souhaitez partager votre expérience de métamorphose lors d'un épisode, je vous invite à me contacter à l'adresse soitoi.psydutravail@gmail.com. Si vous vous questionnez sur le sens de votre travail ou sur une nouvelle orientation professionnelle et que vous souhaitez être accompagné et bénéficier d'une écoute ainsi que d'une méthodologie pour opérer les changements nécessaires à votre vie, je vous propose de vous présenter gratuitement le parcours métamorphose à retrouver sur mon site internet www.soitoi-psychologue-du-travail.com. En attendant, je vous dis à bientôt pour une nouvelle métamorphose.